Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Les Canadiennes sont championnes du monde au tennis. C'est vraiment pas banal ce qui s'est passé ce week-end. On va en parler en long et en large du côté de cette émission. En ma compagnie, Hugues Léger et Nicolas Richard. Hugues, comment te portes-tu en direct du parc Jarry?
Écoute, il y a une effervescence, je dirais, au Centre national. Hein? On a beaucoup de fierté. On a célébré un petit peu, d'ailleurs, dans les bureaux de Tennis Montréal ce midi. C'est un grand jour pour le tennis canadien. Vous réalisez, les gars, qu'on rejoint, maintenant qu'on est champion en titre de la Coupe Davis, donc champion du monde côté masculin, au moins pour une semaine encore, et champion en titre côté féminin, champion du monde avec la Billie Jean King Cup. On rejoint un petit groupe de pays comme les États-Unis, la France, l'Australie, l'Espagne, au sommet de la pyramide du tennis, un des sports les plus pratiqués sur la planète. On est dans un pays divers aussi, on a réussi à se rendre à ce niveau-là. On a beaucoup, beaucoup de fierté aujourd'hui de cette victoire de nos filles en Billie Jean King Cup. Très, très heureux aujourd'hui, là, et le mood est très bon, disons, au stade IGA aujourd'hui.
Moi, Hugues, je vais te féliciter parce que depuis le début de l'année, tu mentionnes qu'on a une équipe pour aller gagner cette Coupe Billie Jean King, et force est d'admettre que cette équipe-là t'aura donné raison. On en parlera en long et en large. Nicolas Richard, comment te portes-tu? T'es-tu remis du décalage horaire de tes alouettes là, à Toronto?
Oui, ce fameux décalage entre Toronto et Montréal. Mais moi, je suis curieux de savoir, ça ressemble à quoi des parties de tennis Montréal, Hugues?
Ce midi, écoutez, on a quand même ouvert le mousseux. Je crois que l'occasion était trop belle parce qu'oubliez pas que Leila Fernandez est passée par nos rangs à Tennis Montréal. Donc, il y a un petit peu du coach Sébastien Prieur dans ce qu'on a vu comme performance la semaine dernière avec des superbes pizzas Altalio, des pizzas carrées de San Gennaro. Je vais les nommer sur Saint-Zotique, aller faire retour. C'est vraiment très bon. Donc, c'était à la bonne franquette, mais on a quand même trinqué à cette victoire-là hier.
Ben écoute, c'est chose bien méritée parce que j'ai trouvé, puis là je vais faire un appel aux médias généraux, là, il y a vraiment eu une sous-couverture d'un événement, je suis désolé là, je veux rien enlever, je vais prêcher pour ma paroisse, ok, puis Nico, je vais pas te mettre sur le spot là, je te rentre pas dans la discussion, ok, je veux rien enlever aux Alouettes qui font la finale, la Coupe Grey dans une ligue canadienne à 8 équipes.
Et au Carabin.
Les filles championnes du monde. Tu sais, puis c'est correct là, qu'on parle des Alouettes, c'est correct qu'on parle de toutes sortes d'affaires, c'est bien correct. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu une sous-exposition d'un événement ni plus ni moins qu'historique dans le monde du sport canadien, avec en tête de fiche une Québécoise.
Ouais, je dirais que les médias se sont électroniques surtout, se sont repris un peu aujourd'hui, lundi, donc je trouve que la couverture est meilleure. Mais effectivement, samedi et dimanche, c'était assez mince, voire inexistant dans certains bulletins. Surtout après qu'on ait battu probablement l'équipe favorite du tournoi qui était la République tchèque, avec la championne de Wimbledon et la meilleure équipe en double des 10 dernières années, là, avec Siniakova et Krejcikova. Donc j'étais un peu surpris moi aussi, c'est un peu mieux aujourd'hui. Mais je pense que le tennis encore n'a pas la place qu'il mérite. Plus d'un milliard de gens jouent au tennis sur la planète. C'est un des sports les plus pratiqués. C'est un sport international. Et on est dans une nation de tennis maintenant. Et ça, on le prouve génération après génération depuis maintenant deux décennies. Donc voilà, il faut en parler. On a tout intérêt à parler parce qu'on doit être très fiers de ce qu'on accomplit au Québec et au Canada avec le tennis.
Par ailleurs, je veux souligner le travail de Vincent Destouches et Séverine D'Amorello, que j'ai bien aimé comme duo à la description durant cette finale-là. Écoute, je pense que c'est absolument historique qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. Et puis, justement, parlons-en. On va revenir un peu en arrière parce qu'avant de parler de la finale, tu en as glissé un mot, Hugues. La République tchèque. Écoute, moi, je vais être bien honnête. Là. Je pense que je vais commencer à dire publiquement plus souvent ce que je pense pour aider nos équipes parce que ça fait deux fois en trois semaines que je me plante royalement. Jamais je pensais que le Canada passait la République tchèque, pour être bien transparent. Tu as la meilleure équipe de double au monde, une des meilleures certainement, une des plus grandes paires de doubles déjà de l'histoire du tennis du côté féminin. Deux championnes de Grand Chelem que tu joues, entre guillemets, back-to-back, contre une fille de 18 ans qui a une bonne saison, mais sur des circuits inférieurs. Puis Leila, qui peut effectivement battre n'importe qui, mais ultimement, elle n'a pas eu une saison complètement folle à part les deux derniers mois, disons. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand on s'est rendu au double. tombé en bas de ma chaise quand on a remporté le double. Mais bon, allons-y étape par étape.
Oui.
Première des choses, Hugues, et Nico, je vais venir à toi après. Performance de Marina Stakušić, phénoménale durant toute la semaine, puis durant, oui, particulièrement durant les deux dernières, oui, étapes, là, même s'il y a une défaite contre la République tchèque.
C'est la révélation du tournoi, Marina. Il faut prononcer Stakušić, hein. J'ai appris la bonne prononciation. Marina, qui avait aucune victoire contre une top 100 avant la Billie Jean King Cup, elle a battu trois top 100 donc, entre les matchs de poule et la finale contre l'Italie. C'est une révélation, 18 ans. On l'a vu au Centre national ici, il y a quelques semaines, s'entraîner beaucoup avec Sylvain Bruno. Il y avait Eugénie qui était ici aussi, on en avait parlé. Elle faisait les Challengers, on l'a vu à Granby. Moi, elle m'avait beaucoup impressionné à Granby l'année dernière. Mais bon, on voit une fille qui émerge là comme une... c'est la révélation donc de la Billie Jean King Cup. Elle a joué avec un aplomb et une férocité dans ses coups qui me faisait penser à une certaine Bianca Andreescu. Tout d'un coup, cette fille-là arrive sur la grande scène du tennis et elle sait maintenant qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs. Donc, son rang de 256 mondial, il tiendra pas longtemps. Je pense qu'elle va montrer rapidement. Elle est en tournoi d'ailleurs au Portugal. Elle repartait avec Sylvain pour un autre tournoi ITF là, qui commence aujourd'hui. Donc, Stakušić, là, c'est vraiment une très belle surprise. Elle a enlevé beaucoup de pression sur l'équipe en gagnant souvent les premiers matchs durant les matchs de groupe notamment.
Et Nico, toi, as-tu été surpris de voir Fernandez à son sommet contre une championne de Grand Chelem, je veux dire, une fille qui a connu une bonne saison?
Complètement. Puis tu sais, ça reste qu'on arrivait quand même avec zéro momentum et aussi beaucoup de questions et d'incertitudes. Je me souviens, une semaine, Alex, tu demandais qui sera la joueuse 1, qui sera la joueuse 2 et qui sera laissée à l'écart. Ultimement, ouais, c'est un beau problème parce que ça dit à quel point la profondeur de l'équipe canadienne est intéressante.
Ouais.
Mais en même temps, on est en droit, les gars, de se poser plein de questions. Puis je me souviens vous avoir dit, j'ai plus confiance en l'équipe de la Coupe Davis que l'équipe de la Coupe Billie Jean King Cup parce que, un, on était certain d'une certaine profondeur avec l'équipe masculine, parce que la chimie semblait plus intacte aussi du côté masculin, alors qu'avec l'équipe canadienne, on plongeait dans l'inconnu. Et on s'était dit aussi, ce ne sera pas simple. La phase de groupe ne sera pas simple. Et si ça passe, les Tchèques sont dans le portrait, ce ne sera pas simple. Donc, oui, de voir comment Fernandez, non seulement a joué, mais a pris d'assaut le leadership de cette équipe-là. Si au tennis, oui, on avait un C, je pense, à mettre sur le chandail, ben Leila Fernandez l'aurait eu, je pense. Et l'aplomb qu'elle a dégagé, elle était avec tellement de confiance. On l'a vu dans les célébrations aussi à la fin de chaque match, à quel point cette équipe-là était soudée. J'en étais surpris, je dois vous l'avouer franchement, ultimement, c'était la recette. Mais cette unité-là, je pense que de simplement ramener ça à une seule joueuse, je pense que c'est un détour qui je pense, ne rend pas justice à l'ampleur de la chose. Donc, je pense que l'équipe a vraiment été fantastique.
Oui. Écoutez, Alex, je vais rajouter là-dessus. La moyenne d'âge de nos deux joueuses là, en simple, c'était 19 ans et demi. Donc, oublions pas que Leila a 21 ans, Stakušić 18. Et Leila, tu l'as dit, Nico, s'est révélée comme une leader, une force de la nature à 5 pieds et 6. Je le répète, j'ai échangé sur ça avec son papa ce week-end, Jorge Fernandez, avec Sébastien Prieur. Elle m'a impressionné par son aplomb. Mais n'oublions pas que depuis le mois d'août, on a senti une progression. Fait que là, elle est arrivée à son pic. Elle a progressé. Victoire à Hong Kong, finalement, premier titre de l'année. Elle reprend confiance en son jeu, en ses tactiques, en tous ses moyens. Elle adore jouer pour le Canada. Donc, elle s'est vraiment révélée comme une leader. Puis on ira sur les matchs plus spécifiquement après. Et finalement, Heidi Altabak a eu la main heureuse en mettant en premier match Stakušić dès le début et ça a fonctionné, ce qui fait que la formule a été la même durant tous les matchs, durant toutes les rencontres là, des matchs de poule jusqu'à la finale. Et donc, cette paire-là, Stakušić et Fernandez, ont fait la pluie et le beau temps à la Billie Jean King Cup. Et j'ai vu que Leila a été nommée Most Valuable Player de toute la Billie Jean King Cup ce matin. Donc, elle est élue meilleure joueuse du tournoi.
Avec raison, je veux dire, oui, elle a joué comme
une victoire, aucune défaite.
Elle a joué comme une top 10 mondiale, puis j'ai pas peur de le dire, là, c'était ce niveau-là. Je veux dire, Vondrousova, c'est la championne en titre de Wimbledon, je vous le rappelle, la championne en titre de Wimbledon. Une fille dont on parlait du fait qu'on ne parlait pas assez, c'est une ancienne numéro 1 chez les juniors, Vondrousova. Et puis, ben, Leila Fernandez, sans dire qu'elle lui a donné une leçon, elle a eu les nerfs, elle a tenu, et puis elle a permis un double ultime. Alors qu'elle allait faire partie de ce double ultime. Là, je veux dire, toi, Hugues, après ça, écoute, moi, j'étais renversé. Là, déjà, je me disais que c'était possible qu'on puisse se rendre au double. Mais oui. Là, d'aller battre Krejčíková puis Siniaková, écoute, c'est phénoménal, là. Écoute, je ne sais pas, là. Évidemment, Siniaková n'a pas eu l'air à son top. Elle a eu de la misère à servir.
Oui.
Et visiblement, ça a servi le Canada. Mais même Leyla, en double, elle a été phénoménale oui. alors qu'elle joue à côté d'une des meilleures joueuses de double au monde.
Oui, Leyla était même en double la meilleure joueuse sur le terrain. C'est un commentaire que notre collègue Séverine Taborero a fait aussi, que je vous avais fait aussi dans notre fil, les gars. Elle était plus calme que Dabrowski, qui était bon, qui a la bonne présence en double, de bouger beaucoup au filet, de déranger beaucoup ses adversaires. Elle est très dynamique sur le terrain avec Dabrowski, mais des fois on savait pas ce qu'elle allait faire. Fait qu'elle mêlait un peu sur les échanges là, où Leyla devait se placer. Et je trouve que c'est Leyla qui a agi comme générale et comme force tranquille durant ce match-là. Donc elle a été admirable autant en double qu'en simple. Et il fallait gagner ce double-là contre des filles, on le répète, Krejčíková, Siniaková, sept fois championne de tournoi Grand Chelem, championne en titre olympique, donc la meilleure équipe probablement des 10 dernières années. Et les deux Tchèques ont annoncé après le tournoi qu'elles feraient une pause en 2024. Donc cette défaite contre les Canadiennes, ça leur a fait mal. C'était inattendu pour elles aussi, assurément. Elles avaient peur de perdre durant ce match-là contre Leyla et Dabrowski.
Ouais, c'est une paire, écoute, là, c'est une paire qui joue ensemble depuis les juniors. On le dit ouais. tout le temps, là, ils ont gagné les internationaux de Repentigny ensemble chez les juniors. Ils jouent très, très, très régulièrement, c'est pas dire ou presque à chaque tournoi ensemble. Nico, à quel point cette victoire-là, tu sais, regarde, on connaît le tennis, là, puis on veut bien, d'une certaine manière, croire en nos joueurs, mais aurais-tu mis de l'argent sur cette victoire-là contre cette paire de doubles-là?
Non, évidemment non, parce que pour les raisons que vous avez énumérées, mais j'ai envie quand même qu'on prenne quelques instants pour souligner l'accomplissement de Gabriela Dabrowski, les gars. Elle est là oui. depuis à peu près 100 ans dans cette équipe-là. On en parle très peu parce qu'elle joue en double, mais dans les derniers mois, Dabrowski a gagné l'Omnium des États-Unis en double, ainsi que la Coupe Billie Jean King. Son apport n'a peut-être pas été aussi important que celui de Leylen Fernández, mais ça reste que dans ce genre de compétition, les gars, vous le savez, le double est souvent ce qui fait pencher la balance. Et d'avoir ouais. dans sa manche une joueuse de la trempe de Dabrowski, c'est un atout considérable. Et de voir, oui, Hugues l'a dit, peut-être pas, c'est peut-être pas elle qui est sortie là, de ce match-là. Mais quand
c'était
même,
pas sa meilleure journée, je pense.
Non, mais je suis convaincu que pour une jeune joueuse comme Leylen Fernández, ouais, qui ouais. avait toute la pression du monde sur les épaules, de jouer à côté non seulement d'une vétérane, mais d'une joueuse de ce calibre-là, l'a beaucoup ouais. calmé, l'a beaucoup apaisé. Puis, ça lui a sûrement donné confiance énormément. Donc, oui, là, Fernández a connu le tournoi de sa vie sur le plan de la Billie Jean King Cup, mais quand même, pour Dabrowski, c'est un triomphe qui, je pense, arrive à point et qui est amplement mérité.
Non, je vais poser la question un peu plus tard. Allons sur la finale par la suite parce que, tu sais, je veux dire, il y a quand même. On parle de cette victoire-là contre la République tchèque comme si c'était la finale et d'une certaine manière, ça l'était parce que c'était ces Tchèques qui étaient cette équipe, à mon avis, favorite. Ben bon, par la suite, nous attendaient les Italiennes et là, on pouvait avoir un peu d'espoir, Hugues, mais c'était quand même pas joué. Il fallait que Stakušić puisse performer au niveau qu'elle nous avait montré dans les semaines précédentes et que la fatigue ne se mêle pas de la partie.
Oui. Moi, j'étais quand même assez confiant. Il n'y avait pas Camila Giorgi. Bon, c'était une joueuse avec Trevisan et Paolini, deux joueuses quand même très bien classées. Je pensais que Leyla jouerait Trevisan, ce qui n'a pas été le cas. C'est finalement Stavucic qui l'a eu au premier match. Et je pense que l'effet de surprise et la confiance aussi de cette jeune Canadienne de Mississauga, Stavucic, a un peu surpris Trevisan. Elle a gagné ce match-là quand même haut la main, là. On ne voyait pas l'écart d'expérience entre les deux. Et quand on a sorti Trevisan de l'équation en simple, je me dis, bon, je pense que c'est dans le sac pour le deuxième match. Je lui dis, Leyla va blitzer Paolini. Ça n'a pas été aussi rapide que j'aurais pensé, mais 6-2, 6-3, c'est une victoire nette quand même de Leyla. J'avais peur qu'elle ait un peu de fatigue. Elle avait l'air un peu fatiguée en début de match, mais ça a été quand même. Donc, je pense que le gros match, que la victoire du tournoi, c'est celle contre la République tchèque. Là. Tu l'as dit, que Leyla sorte la championne en titre de Wimbledon. Très peu de médias l'ont relevé. Il faut souligner ça avec au marqueur jaune fluo, là, parce que c'est une grande victoire, là, le fait qu'elle ait poussé cette rencontre-là contre les Tchèques au match ultime en double.
Tu as raison que Camilla Giorgi n'était pas là, non. Mais il reste que Trevisan et Paolini étaient les joueuses les mieux classées à ce moment-là pour les Italiennes. Bon, évidemment, là, ce n'est pas des filles qui ont remporté des grands titres comme Giorgi l'a fait. Elle n'a pas eu une saison complètement incroyable non plus, Camilla Giorgi. Nico, commentaire sur la victoire, je vais le dire comme ça, historique de Stausic et de Fernandez par la suite, un 2-0 franc. À quel point c'est magique ce qui s'est passé
C'est qu'en même temps, les gars, je comprends l'idée que la finale avant la finale était sans doute l'affrontement contre les Tchèques, j'en conviens.
Ouais.
Mais il en demeure pas moins que les Italiennes et les Italiens, dans ce genre de compétition, ne sont jamais à prendre à la légère. Je pense que du côté féminin, c'est 5 titres là, en Billie Jean King Cup et ou en Fed Cup, bon, 3.
Ouais.
Ça reste qu'une équipe qui sait gagner, c'est gagné. Un programme qui sait bien faire les choses, sait bien faire les choses. Je suis conscient, puis j'en conviens, que l'équipe à battre était les Tchèques. Mais effectivement, je pense qu'une fois que l'affrontement, le premier affrontement là, contre Trevisan était réglé, moi aussi, je me disais, là, notamment Hugues, tu étais survolté, je pense, dans ton salon, tu nous écrivais dans le groupe en disant « pense que c'est pas mal dans la poche ». Puis ultimement, c'est ce qui est arrivé, parce que Fernandez avait tellement le vent dans les voiles. Puis c'est une stratégie aussi, hein, les gars. Tu sais, Trevisan, je pense, c'était le gros morceau. Peut-être qu'Altabac s'est dit « prenons une chance avec Stausic, elle va sûrement ou pas battre Trevisan, mais dans tous les cas, on aura deux chances de se reprendre. » Et là, je pense que ça surprit même un peu l'équipe canadienne de voir que Trevisan n'a peut-être pas joué le tennis qu'on attendait, que Stausic a été vraiment efficace. Donc, le beau jeu était là pour Leila, puis l'occasion, la porte était grande ouverte.
Heureusement, les Italiennes, eux, en demi-finale, ont frappé la Slovénie. Là, ben, en fait, ils ont frappé, peu importe qui ils auraient frappé, là, c'était beaucoup plus faible que ce que le Canada avait comme adversaire. Et malheureusement, pour la République tchèque, eux, ils se sont retrouvés dans un groupe très fort là, au niveau du tournoi à la ronde, là, avec les Américaines notamment. Même si les meilleures joueuses américaines n'étaient pas là, c'était quand même une équipe qui se défendait très bien. Là. Alors, peut-être un peu de fatigue du côté de la République tchèque, je ne sais pas. Le groupe était plus difficile alors que le Canada a littéralement traversé tout le monde dans sa phase de groupe. C'est peut-être une explication. Un peu de nervosité, peut-être, Hugues, pour servir, quand elle a servi pour la première fois pour le match, elle avait deux bris de service, elle s'est fait briser alors qu'elle servait pour la coupe, elle a concrétisé les choses. J'imagine que c'est normal d'être nerveux. C'est juste humain.
À part les quelques très rares champions de la trempe de Djokovic ou Nadal, je ne mettrai pas Federer là-dedans, qui a souvent perdu des balles de match, on s'en souviendra, puis c'est pas une émission là-dessus aujourd'hui. Comment?
J'allais dire Wimbledon 2019.
Oui, exactement, j'y pensais. Notamment, puis un certain US Open aussi. Mais Leila, elle voyait le trophée à ce moment-là. C'est juste humain, puis elle s'est reprise sur le jeu d'après, de très belle façon en passant. Le point gagnant pour la coupe, là, écoute, elle est en défense, elle est à bout de bras sur son coup droit, à sa gauche, évidemment. Et après, elle court à bout de bras, à droite sur son revers, en reculant, et elle réussit un passing fumant. Quelle fin spectaculaire en plus. Et la raquette qui s'envole après. Vraiment, là, très, très belle fin. Donc, et on a vu que Leila, à chaque fois qu'elle se faisait breaker, elle rebreakait tout de suite après. Donc, moi, je n'étais pas trop inquiet là, qu'elle était pour finir ça rapidement par la suite.
Ouais, tu te dis, c'est un coup qui va passer à l'histoire. C'était vraiment un beau passing en croisée là, pour Leila, honnêtement. Bon. Je vais vous poser la question que j'avais en tête, messieurs, là, je vous mets sur le spot. Coupe Davis 2022. US Open de Bianca Andreescu. Andreescu qui remporte Toronto. Où se situe parmi les grands événements tennistiques canadiens cette Coupe Billie Jean King? Est-ce que c'est numéro 1, 2, 3, 4, 5? Là, je sais que je vous mets sur le spot là, pour vous commettre. Là. Ça se situe où dans l'histoire du tennis canadien, cette victoire-là?
Je pense que les grands chelems sont au-dessus maintenant, que les tournois par équipe ont un peu perdu de leur lustre depuis quelques années, même si Billie Jean King et son équipe tentent de redonner un lustre à cet événement-là du côté féminin notamment. J'aime bien cette nouvelle tradition du veston bleu qu'on remet aux filles, comme au Masters avec le veston vert. Mais on voit que c'est dans un amphithéâtre relativement petit.
Personne.
Puis il y avait peut-être un 5000 places là-dedans. Fait qu'ils voient que ce n'est pas un événement à la hauteur des finales d'ATP ou d'un grand chelem avec un central de 15 000 ou 20 000 personnes comme au US Open. Donc, je pense que les victoires en grand chelem, je pense que le US Open de Bianca vient devant ça. Mais moi, je le mets par contre au même niveau que la Coupe Davis des garçons de l'an passé. Donc, forcément, c'est dans le top 5 là, des plus grands moments du tennis canadien, mais ça reste pour moi un petit peu en dessous d'un grand chelem quand même.
Donc, possiblement à égalité au deuxième rang du plus grand moment de l'histoire du tennis canadien. Nico, toi, t'aimes ça, ce genre de classement-là? T'aimes ça, ce genre de questions-là? Là. Je te vois sourire. Tu places ça où?
J'aime la question, mais vous n'aimerez pas mes réponses.
Oh boy!
Un, Bianca New York, je pense que c'est indétrônable.
Oui.
Deux, Bianca Toronto, parce que c'est le début de l'ascension, parce que c'est une Canadienne qui gagne chez elle contre Williams. Pour moi, le contexte est extraordinaire.
J'aime ça.
Trois, je mettrais la Coupe Davis des gars.
Ouais.
Puis ça va complètement briser ce qu'on a fait depuis 21 minutes. Mais quatre, je mettrais la finale d'Eugénie à Wimbledon, les gars. Parce que le moment était tellement grand, parce que c'était une première, parce que c'est Wimbledon, parce qu'on était au début de quelque chose d'immense pour le programme canadien.
Rannick a fait une finale aussi à Wimbledon, Nico.
Oui, mais je trouve que l'ascension cette année-là d'Eugénie Bouchard, c'était immense. Je ne me souviens pas, du moins c'est la première fois, je pense, qu'au tennis canadien, on était autant de gens devant notre téléviseur à 7h du matin pour regarder Eugénie.
C'est un bon
et
point.
5, je mettrais le titre d'en fin de semaine.
Puis tout ça, évidemment. Dabrowski qui remporte le US Open en double, tu le mets où?
Ah, je mettrais 6 parce que je pense quand même que ce qu'on a fait en fin de semaine, le Canada, c'était exceptionnel. Mais ça, ce serait mon top 5. Je sais, évidemment, c'est débattable, puis on aime beaucoup ça.
Puis c'est sur le spot, mais je ne vous ai pas demandé.
Oui, mais ce serait ça parce que Hugues l'a dit, je pense que. Puis pour le Coupe Davis versus Billie Jean King Cup, pour l'ambiance, oui, mais aussi, je pense que ça avait fait plus jaser la Coupe Davis dans un moment particulier.
Il avait battu Alcaraz dans cette
Coupe Davis. Oui, puis tu sais, il y avait Félix, il y avait Denis, il y avait Vachek, il y avait Frank Dancevich. Il y avait beaucoup, je trouve, l'historique était plus gros, je pense, puis le bagage était plus important. Mais évidemment, ça n'enlève rien au titre d'en fait.
J'aime l'argumentaire de dire, bien, écoutez, force est d'admettre que quand tu regardes les gradins, de façon générale, la population tennis va accorder plus d'importance au grand chelem, mais je pense que c'est le cas des joueurs aussi. Combien de fois on les voit sauter ces compétitions par équipe pour se concentrer sur des grands titres, des grands tournois. T'sais, c'est pas rare là, que les meilleurs joueurs sont pas des phases de qualification, puis même souvent des phases de finale. On l'a vu là, cette année, c'était pas les. Ben, regardez les États-Unis, c'était pas l'équipe A, pas du tout. Faut dire qu'en même temps, bon, il y avait les finales de la WTA là, qui étaient tout juste avant. J'aime cet argumentaire-là. Ben, franchement, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Moi, je vais la placer un peu comme Hugues, par contre, au deuxième rang des plus grands événements sportifs. Je pense que tout juste derrière la victoire de Bianca Andreescu, je vais laisser les finales de Milos et de Bianca derrière parce qu'ils n'ont pas gagné. Être champion du monde, tu sais, on en a parlé souvent de la Coupe Davis qui avait un déficit de notoriété en Amérique du Nord. C'est un peu la même chose pour la Billie Jean King Cup, mais pour les joueurs, pour beaucoup de joueurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment prestigieux et c'est magique ce qui s'est passé.
Oui, puis je le répète, les gars, comme je l'avais dit pour la Coupe Davis, tous les grands noms du tennis masculin sont sur la Coupe Davis. Federer, McEnroe, Lever, tout le monde est là, OK?
C'est légendaire.
Nadal, tout le monde est là. Sur le trophée de la Fed Cup ou de la Billie Jean King Cup maintenant, même chose pour la Fed Cup. Everett, Navratilova, name it, là, Serena Williams, tout le monde est sur la Fed Cup ou maintenant sur la Billie Jean King Cup. Donc, c'est un trophée hautement prestigieux et dont la nation peut être extrêmement fière. Puis ça peut servir de tremplin pour plein de choses. Après, pour dire, regardez, on est les champions et championnes du monde dans tous les programmes de développement junior au niveau récréatif et au niveau sport-études et tout ça. Je peux dire que tout le monde ici au Stade IGA a le pas léger aujourd'hui. Les gens sont de bonne humeur aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent ce qu'on a accompli hier.
Et Alex, je te relance. Puis là, je sais qu'on prend du temps, mais c'est pas grave.
C'est correct.
Dans l'émotion, j'ajoute à la discussion le match de Chapon en 2017.
À Montréal.
Ça se défend parce que le contexte était tellement exceptionnel. C'était tellement une victoire qui sortait de nulle part. Pour moi, elle ne serait pas dans le top 5, mais on pourra se parler d'un top 10 peut-être.
En termes d'émotion pure, ressentie,
ça se défend.
Dur à jouer contre. Dur à jouer contre.
Oui, non, ça se défend, Nico. Ça se défend très bien. Et Dieu sait que tu es un gars d'émotion.
Oui, et j'aurais pu ajouter le premier match de Pospisil contre Federer.
Ouais, c'est ton moment. Mais j'allais dire, tu es un vrai fan de sport, honnêtement, parce que en dépit de la saison qu'ils connaissent, tu portes quand même ton chandail des Patriotes fièrement.
Ouais, au moment où tranquillement je remonte, la fermeture est claire. Oui.
Non, mais je trouve que honnêtement, ça vaut la peine de souligner. On va faire une courte pause sur ces paroles sages et puis au retour, on va parler des tournois qui se sont disputés la semaine dernière et les finales de l'ATP sont commencées.
Le Festival Montréal à table bat son plein. Venez déguster un délicieux menu 4 services pour 68$ au restaurant Monem. Découvrez la cuisine recherchée du chef français Florimond Hanotto jusqu'au 19 novembre. Vous pourrez réserver votre table sur Open Table, restaurant Monem. À partir du 16 et jusqu'au 29 novembre, ce sont les jours Black Friday à l'Hôtel Montville. Réservez votre séjour pendant ces dates et bénéficiez d'un rabais supplémentaire de 20% sur deux de nos offres. Certaines conditions s'appliquent. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
J'en parlais avant de lancer la pause, c'est que les finales de l'ATP sont commencées. Là, moi, je vais commencer avec quelque chose d'un peu champ gauche, messieurs, parce que je l'ai constaté. Et Nico, tu vas aimer où je m'en vais. As-tu aimé le ton un peu plus relax de la présentation des joueurs qui d'habitude arrivent toujours en le terme anglais suit and tie, là, en habit et cravate? Et là, on est arrivé presque casual. Là. Certains joueurs avaient le petit jacket, tout ça. Là. Toi qui es un fan de mode, là, t'aurais préféré la tradition. Hein? Je vois ta
si face. C'était juste de moi, les gars, ce serait obligatoire un 3 pièces et un chapeau.
Ah, oh, c'est pas long,
s'entendre. Avec une lavalière.
Exactement. Et un petit monocle.
T'en as pensé quoi? C'est un stunt voulu, là, parce que d'habitude, c'est très, 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 très classique, cette présentation-là. Et puis là, on est allé vraiment, vraiment
à jour. N'oubliez pas que le tennis doit rajeunir sa clientèle, son audience. On en parle régulièrement. Il faut trouver une façon de toucher les 18-34 et il faut qu'on relâche un peu certains protocoles, peut-être. Et je pense que cette approche plus casual de leur entrée et tout ça était payante pour le tennis. Et on a des personnalités aussi, là. Quand on pense à Medvedev, évidemment, quand on pense à Rublev aussi, à Rune, à Alcaraz. Donc, c'est bien de les laisser aller un petit peu plus. Moi, j'ai bien aimé ça.
Ouais, ben moi, j'avoue, honnêtement, moi aussi, je suis vraiment pas le plus traditionnel à ce niveau-là. Alors, ça m'a fait quand même plaisir de voir ça, qu'on dérouille un peu les choses, là, pourquoi pas. Là.
Alex, je voudrais qu'on arrive en camisole blanche et en bermuda rayée.
J'aimerais que les gens arrivent comme ils sont confortables. C'est comme ça que je vais répondre à la question. Voilà. Il y a quand même du tennis qui s'en vient. Les matchs sont commencés. On est présentement dans le tournoi à la ronde. Hugues, toi, c'est-tu un tournoi d'abord et avant tout qui t'allume? Est-ce que c'est... Oui?
Ben oui, il y a déjà une grosse nouvelle. Là. Avec la victoire de Djokovic contre Rune hier, il s'assure de terminer l'année au sommet du classement mondial de l'ATP, premier mondial pour la 8e saison dans sa carrière, seul au monde du côté masculin, égal avec Steffi Graf, hommes et femmes confondus. Il est devant Pete Sampras qui a fini l'année 6 fois au numéro 1. Federer et Nadal, 5 fois numéro 1. Donc, Djokovic continue de réécrire le livre du record et je pense qu'il voulait enlever ce poids-là rapidement. Il fallait qu'il gagne un match seulement. Je pense qu'il est content de l'avoir fait dès son premier match. Belle victoire en 3-7 contre Holger Rune.
Djokovic qui fait partie du groupe vert en compagnie de Yannick Sinner, Stefanos Tsitsipas et Holger Rune. Oui.
J'aime beaucoup ce tournoi.
Ben, moi, j'aime la formule du tournoi à la ronde. Je sais que c'est pas tout le monde qui tripe sur ça, là, mais moi, j'aime le fait que tu as les meilleurs joueurs qui s'affrontent tour à tour. Ouais. Gagne, perd, tu vas le revoir jouer. Puis ça, moi, j'aime cette formule-là. Je sais pas, Nico, là, avant qu'on se rende dans les résultats un peu plus intéressants, là, est-ce que ça te va, cette formule-là, ou tu préférerais une formule peut-être plus traditionnelle au niveau du tableau?
Ah, je le répète, à chaque année, les gars, pour moi, c'est le tournoi le plus sous-estimé du calendrier. Ouais. Dans mon livre à moi, ça a la même valeur ou presque qu'un tournoi du Grand Chelem. Les gars, ce sont les 8 meilleurs joueurs au monde qui s'affrontent pour le titre de la saison. Ce sont les séries éliminatoires du tennis. Oui, point final. Puis on s'entend que dans tous les sports, que ce soit le hockey, le foot, le baseball ou le basket, les séries, c'est ce qu'on attend. Les séries, c'est ce qu'on aime. Oui. Puis c'est là que se départagent les hommes des enfants. Et c'est un peu ça au tennis présentement.
N'oubliez pas, les gars, il y a 1500 points à prendre. Donc, souvent, ça peut affecter le classement final. Ça ne sera pas le cas. Ça a été plié par Djokovic hier soir. Mais on se rappelle, les Grands Chelems, c'est 2000 points, une victoire en Grand Chelem. Les Masters 1000, évidemment, c'est 1000. Et les finales d'ATP, c'est 1500. Fait qu'ils veulent garder le suspense, si possible, jusqu'à la fin de l'année. Et ça peut ajouter à l'intérêt. Et évidemment, il y a des bourses intéressantes et des bonus à aller chercher pour les joueurs au niveau du classement. Donc, les joueurs veulent bien faire au final de l'ATP.
Tu sais, pour vous dire à quel point ce sont deux groupes fort, là. Je disais, dans le groupe vert, tu vois, Novak Djokovic, Yannick Sinner, Tsitsipas et Rune. Dans le groupe rouge, tu as Alcaraz, Medvedev, Rublev et Zverev. Honnêtement, là, dites-moi quel groupe est le plus fort, puis je vous attends.
Voilà. Difficile.
C'est presque impossible de dire quel groupe est le plus fort. J'ai vraiment de la misère à me faire une tête, c'est-à-dire à quel point les huit joueurs sont absolument phénoménales et de haut niveau. Bon, tu parlais de Djokovic qui a battu Rune. Ça a été le cas aussi de Yannick Sinner, que j'ai déjà choisi comme champion. J'en ai parlé la semaine passée.
C'est un bon choix.
Ben, écoute, là, déjà avec la victoire, il va se donner des bonnes chances de sortir du groupe, oui. Parce qu'une victoire, une défaite dans ce genre de tournoi à la ronde-là, t'es rapidement bien avantagé ou rapidement le dos au mur. La bonne nouvelle, c'est qu'il théoriquement n'affrontera pas Novak Djokovic en demi-finale. S'il sort du groupe, là, ça serait probablement en finale s'il fallait qu'ils s'affrontent puisqu'ils sont dans le même groupe. Alors, on verra. Mais moi, j'avais gardé mon Yannick Sinner. Nicolas Richard, première impression sur ces groupes-là. Et puis, qui vois-tu champion? Est-ce qu'on en a parlé? Je ne me souviens plus si on en a parlé ensemble.
Ben, on en a parlé brièvement à la fin du dernier épisode. Ouais. Dans la dernière minute, on y a seulement été de nos choix. Mais ce qui m'a un peu surpris, les gars, c'est le message lancé par Alex Zverev en début de tournoi. Bat Carlos Alcaraz, qui est bon, le meilleur ou le deuxième meilleur, là, dépendamment de vos allégeances. Ouais. Mais je trouve que ça envoie un message clair. On se rappelle Zverev, blessé à Roland-Garros il y a un an, revient, puis on sait, entre nous les gars, puis ceux qui suivent le tennis savent que Alex Zverev, il sait jouer au tennis. C'est un top 5, je pense, là, puis c'est même pas débattable. Mm. Puis on l'a comme un peu oublié parce qu'il a été blessé. Évidemment, il a dégringolé au classement. Ces histoires hors terrain qui font de lui que ce n'est pas nécessairement le modèle de société à suivre. Mais il en demeure pas moins que c'est tout un joueur de tennis. Et là, il envoie un message fort. Je me suis non seulement classé parmi les 8 premiers, c'est-à-dire que j'ai connu un retour assez phénoménal, mais en plus, je bats le gars à battre, le gars identifié comme étant le successeur du Big Three, la prochaine grande vedette du tennis. Et Zverev lui arrive en disant « Attendez, moi aussi, je suis encore là. »
Ça envoie un gros signal.
Je ne dis pas qu'il va remporter le tournoi, mais je trouve que ça jette les bases pour une saison 2024 extrêmement intéressante dans le cas de Zverev.
Ouais, un long 3-7, le 6-7, 6-3, 6-4 pour Zverev quand même. Mais oui, il envoie un message fort. Et comme je le disais, dans cette formule-là, avec 4 personnes dans ton groupe, avec une victoire, tu es déjà bien placé. Avec une défaite, tu as déjà le dos rapidement au mur. Là.
Et tu bats le meilleur du groupe, qui plus est.
Exact. Je vous offre la possibilité, parce qu'on est encore très tôt dans le tournoi, là, on ne fera pas trop d'analyse de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il n'y a que 3 matchs là, de jouer à ma connaissance. Là. Novak a battu Rune, je le rappelle, Sinner a battu Tsitsipas et Zverev a battu Alcaraz. Je vous offre à mi-tournoi. La semaine prochaine, quand on va s'en parler, ça va être terminé. Mais de rester avec votre choix de gagnant ou de changer, moi j'ai dit que j'allais garder Sinner. Nico, je commence avec toi.
J'avais dit Djoko, je reste avec lui. C'est le meilleur joueur au monde présentement. C'est le meilleur joueur de l'histoire du tennis. Dommage que lui et Sinner ne puissent pas s'affronter en finale.
Ouais.
Mais je pense que Djoko va. Et pourquoi pas une finale? Mais
il pourrait s'affronter en finale. Il pourrait pas s'affronter en demi-finale.
Oui, il croise.
Oui, vous avez raison. C'est exactement, vous avez raison. Bon, j'avais dit Djokovic, je vais garder Djoko. Je t'avais dit aussi également qu'Alex, j'appuyais ton choix de Sinner. Je vais garder ça. Djoko sur Sinner en finale.
Hugues, est-ce que tu
moi, changes j'y vais avec Sinner aussi. Je pense qu'il finit en force. Il a eu une très bonne saison, Sinner. C'est vraiment le joueur qu'on attendait. Il est rendu maintenant le top 4, top 3 et plus. Donc, je mets Sinner comme gagnant. Puis, je pense que le fait que Djokovic a conclu déjà la question de est-ce que je finis numéro 1 ou pas, ou ce sera Alcaraz, va peut-être le faire. Il dit tout ce qui s'en vient en conférence de presse, ça va être du bonus maintenant. Est-ce qu'il va le jouer avec autant d'intensité? On verra, on sait qu'il est toujours intense, Djokovic. Mais je pense que Sinner va aller chercher ce trophée-là cette semaine à Turin.
Mais en même temps, les gars, n'écartez pas Medvedev. Sa famille est là, il a un certain momentum, il est évidemment dangereux. Puis lui, ça ne lui dérangerait pas de mettre un peu de trouble dans ce tournoi-là.
Franchement, là, n'écartez pas n'importe qui dans ce tableau-là. Oui, c'est ça. Rendu là, là, pour vrai, Hulgaire Rooney remporte ce tournoi-là, personne ne tombe en bas de sa chaise. Là. Tsitsipas remporte, Rublev, name it, là. Et c'est un tournoi qui est vraiment intéressant pour ça parce que c'est huit excellents joueurs qui peuvent tous se battre entre eux. Évidemment, Novak est comme bien assis sur le trône et c'est à lui de le défendre, mais il reste que c'est un tournoi, à mon avis, qui est...
Ce que j'aime, les gars, c'est que les huit joueurs sont complètement légitimes. Ils ont tous eu des moments forts durant la saison. Souvent, dans ce format-là, tu as un joueur qui va remporter un grand chelem, qui va faire une finale de grand chelem, qui vient un peu bousculer le classement et qui se retrouve un peu là-dedans par hasard.
T'es content que Casper Ruud soit pas là?
Ben, je le nommerai pas, mais je parle si on recule vraiment au fil des années, il y a eu des noms un peu bizarres. Je pense à Gaudio, notamment, qui avait gagné un Roland-Garros, qui se retrouvait là. Je pense à Guillermo Coria aussi, qui performait que sur terre battue. Dimitrov? Je trouve que le top 8 qui est là, il mérite tout d'être là, vraiment.
Dimitrov,
je le voyais bien là, Dimitrov. Okay. Il avait gagné en 2017 et il méritait de le gagner aussi.
OK. Intéressant. Non, mais c'est un joueur que j'apprécie. J'étais curieux si tu le rentrais dans ta liste.
Oui.
Bon, donc on en fera une analyse plus approfondie la semaine prochaine. Je veux qu'on parle rapidement du Challenger de Calgary, Hugues, parce que Liam Draxall l'a remporté. On ne fera pas un long bloc là-dessus, mais là, tu le mentions, c'est son premier titre Challenger. Un gars dont on ne parle pas assez, mais qui va commencer tranquillement à se faire un nom chez les pros.
Oui. Liam Draxall, ancien champion de la NCAA avec Kentucky, qui est la filière par excellence pour les joueurs du Canada. On sait que Gabriel Diallo est aussi allé à l'Université du Kentucky. Belle victoire, tournoi intéressant, beaucoup de Canadiens. Il y avait Gabriel qui était aussi, qui a fait les quarts de finale, si je ne me trompe pas. Un certain Benoît Paire qui s'est retrouvé là aussi, qui est à Drummondville cette semaine, il joue ce soir d'ailleurs. Benoît Paire qui cherche à faire des points étonnants cette tournée canadienne de fin de saison pour Ben. J'espère qu'il va aller chercher une coupe de points à Drummondville quand même, puis qu'il n'aura pas fait tout ce voyage-là pour rien. Mais les Canadiens, encore une fois, dans le circuit Challenger, font très, très bien en ce moment. Et on parlait des succès canadiens en général, on voit encore que cette relève-là dans le circuit qui est juste en dessous du circuit ATP, ben on est très présent. Donc, très, très bien ce qui s'est passé à Calgary. Belle victoire pour Draxall.
Oui, il y a Funk qui a fait une finale également de son côté. Et Carson Brandstein, c'est peut-être pas la joueuse que vous connaissez le plus. Elle joue dans les collèges américains. Elle également, elle a fait partie du Centre national de tennis Canada. Elle a la double nationalité canadienne et américaine. Elle n'a pas joué beaucoup parce qu'elle a été énormément blessée dans les dernières années. Là. Même au niveau universitaire, elle n'a pas joué beaucoup. Elle a joué un tournoi pro en fin de semaine. Elle est revenue. C'était seulement son deuxième tournoi en 7 mois. Et puis, elle a gagné. C'était à Monastir. Elle a gagné ce tournoi-là après avoir passé par les qualifications. Elle a gagné le simple, elle a gagné le double. Alors ça, c'est bien intéressant. Le seul autre tournoi qu'elle avait joué, c'était au Saguenay. C'est un peu plus tôt cette année. Là, elle avait perdu au premier tour des qualifications. Alors, notre nom à garder, c'est une fille énormément talentueuse qu'on a perdu de vue un peu depuis qu'elle est allée dans les collèges américains. Je veux qu'on parle également... du Challenger de Drummondville qui s'en vient. On parlait de Gabriel Diallo et d'Alexis Galarneau. Il devrait y être, mais il y a un point d'interrogation pour Gabriel Diallo, parce que tu en parlais, là, il s'est retiré au tournoi de Calgary à un certain moment. Il aurait une blessure, je vais le dire comme ça, au haut du corps. Je ne sais pas. Est-ce que vous attendez à le voir? Est-ce que son retrait est préventif en fonction de la Coupe Davis? Je ne sais pas. Ton analyse, c'est quoi, Hugues, de ça?
Moi, je pense que Gabriel veut arriver à son pic pour la Coupe Davis. C'est sûr qu'il a besoin de quelques points encore pour rentrer dans les tableaux du Grand Chelem. Donc, je pense à l'Australie, évidemment. Donc, il faut qu'il aille chercher un peu de points. Mais je pense que là, au point où ils en sont rendus dans la saison, c'est mieux qu'il nous arrive en forme pour Malaga pour la semaine prochaine et saute Drummondville. C'est un peu la même chose dans le cas d'Alexis. Il n'était pas à 100% la semaine dernière. Il a décidé de ne pas faire Calgary, mais il sera à Drummondville. Il joue ce soir d'ailleurs.
Oui, je l'ai croisé, moi, Alexis, à Drummondville. Il a été invité à venir parler aux joueurs dans le vestiaire. C'est lui qui a annoncé la formation partante des Vultures de Drummondville. Il a fait la mise au jeu protocolaire avec une balle de tennis.
C'est cool, ça va être le fun.
J'ai fait des demandes là, à l'organisation du tournoi à savoir si Gabriel Diallo avait confirmé ou pas sa présence. J'attends toujours une réponse au moment où on se parle. Alors, si jamais on le sait, on en fera l'annonce sur nos médias sociaux.
Et les gars, rappelons qu'un certain Vacek Pospisil avait remporté ce tournoi à Drummondville l'année dernière avant d'aller remporter la Coupe Davis avec l'équipe Canada. Donc, souhaitons qu'un Canadien suive la même tangente cette année.
Il y a un autre Canadien qui est dans la liste des joueurs dont on ne parle pas beaucoup parce qu'il joue particulièrement des tournois en Europe le plus souvent. Ce n'est pas un mauvais joueur de double non plus, mais Steven Diaz sera de ce tournoi-là. C'est vraiment pas le Canadien dont on parle le plus souvent. Benoît Paire est théoriquement sur la liste des joueurs également.
Ancien 13e mondial, il faut le dire.
Un gars tellement de talent, ça, on le sait. Et si vous avez une chose d'aller voir Benoît Paire, je pense que ça vaut le prix d'entrée. Vous allez avoir un spectacle d'une manière ou d'une autre, que ce soit par ses prouesses sur le terrain ou par son exubérance sur le terrain, là, un des deux, ce sera certainement spectaculaire. Dominique Kopfer aussi, qui sera la première tête de série de ce tournoi-là. Il était d'ailleurs l'adversaire en finale de Liam Draxel à Calgary. Alors peut-être vous attendre à quelque chose d'intéressant là, pour Liam Kopfer si vous êtes dans le coin de Drummondville. C'est pour l'essentiel là, les noms que vous aurez à retenir là, qui seront là. Peut-être Luke Saville, là, qui est le mari d'ailleurs de Daria Saville, qui quand on a vu le couple, les deux, à Granby dans les dernières années. Alors, voilà, peut-être quelques noms pour les fans de Drummondville. Messieurs, si vous le voulez bien, on va faire une courte pause. Et au retour, Isabelle Étier a fait une entrevue avec la maman d'Alexis Galarneau, Chantal Denis.
Le Festival Montréal à table bat son plein. Venez déguster un délicieux menu 4 services pour $68 au restaurant Monem. Découvrez la cuisine recherchée du chef français Florimond Hanotto jusqu'au 19 novembre. Vous pourrez réserver votre table sur Open Table, restaurant Monem.
À partir du 16 et jusqu'au 29 novembre, ce sont les jours Black Friday à l'Hôtel Montville. Réservez votre séjour pendant ces dates et bénéficiez d'un rabais supplémentaire de 20% sur deux de nos offres. Certaines conditions s'appliquent. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
Au tennis, les parents sont très présents. T'sais, on les montre souvent lors des compétitions à la télévision. C'est souvent le parent qui va initier son enfant au tennis, même des fois qui va l'entraîner. T'sais, pensons au sœur William, Henry, ou au frère Murray avec la maman Judy. Ou encore proche de nous, là, rappelez-vous au début, là, chapeau, sa mère, on la voyait souvent, Tessa, ou encore George, le père de Leilani Fernandez. C'est que je me suis posé la question, quel est le rôle d'un parent dans la carrière d'un athlète, dans son développement? Est-ce qu'un parent devient automatiquement son agent? Fait que pour en jaser, j'ai invité Chantal Denis, la maman et aussi l'agente d'Alexis Galarneau, le joueur canadien de tennis. Chantal, comment ça va?
Merci Isabelle. Merci de nous recevoir à ton balado. C'est vraiment agréable.
Bien, Chantal, tu es la maman, tu es aussi l'agent d'Alexis, mais c'est quoi le rôle? Commençons par c'est quoi le rôle d'un parent dans la carrière d'un athlète?
Je pense que d'être parent, à la base, c'est d'être là, être présent, que ce soit physiquement ou d'autres façons qu'on est capable d'être, mais d'être le plus présent et le plus positivement possible présent dans leur vie. Je pense que c'est surtout ça notre rôle comme parents.
Mais là, toi, tu as pris aussi le rôle d'agent. Quand est-ce que vous avez, parce que j'imagine que c'est une décision qui a été prise à deux, toi puis Alexis, et l'entourage, quand est-ce que ça s'est fait, cette décision-là, puis pourquoi?
C'est venu vraiment naturellement. C'est aussi étrange. Tout à l'heure, tu parlais des parents les plus connus, que ce soit les Williams, Murray, Dennis, Leila. Quand on parlait, je me disais justement, je me posais la réflexion, je disais, c'est tous des parents plus entraîneurs, coach. Contrairement à tous les parents plus comme ça de ces joueurs-là, je ne me suis jamais mêlée je ne me suis jamais sentie concernée parce que je n'ai jamais joué au tennis, premièrement, donc le rôle d'entraîneur. Et le rôle d'agent du tout non plus tout au long. C'est vraiment lorsqu'Alexis a terminé l'université américaine. C'est venu vraiment naturellement parce que la première année, quand il a terminé, il est allé faire un an toute seule sur le circuit. Et là, c'est moi qui faisais un peu tout. Je faisais les hôtels, les réservations, les billets d'avion, ses cédules parce que ça l'aidait. Je faisais ses cédules, le tournoi, je regardais. Je lui laissais des scénarios A, B, C. Ça incluait tel tournoi sur telle surface, à tel endroit. Moi, je regardais en tel et tel tournoi, il y avait combien de temps de transport, voir ce qui se faisait le plus logiquement possible, logistiquement possible aussi. Et je faisais des scénarios 1, 2, 3 pour une période de, habituellement d'un bloc de 2 mois. Là, ils choisissaient selon ce qu'ils voulaient. Je faisais le choix. Ensuite, je m'occupais. Au début, c'était plus du management. Ensuite, il a bien progressé et tout. Donc, le rôle d'agent a pris un petit peu plus de place. Mais en fait, tout ça s'est fait vraiment naturellement. Il n'y avait absolument rien de planifié dans ça. Ce n'était pas notre intention ni un ni de l'autre. Ça s'est fait de plus en plus, eu de responsabilités à prendre dans sa carrière. Ça s'est fait naturellement, avec des ajustements, bien sûr, mais tout ça s'est fait vraiment graduellement et naturellement.
Mais c'est quoi la différence entre être le parent? Quand est-ce que tu mets ton chapeau de maman versus le chapeau d'agente?
Comme souvent, dans la vie de tous les jours, quand il est physiquement avec moi ici à la maison, j'ai 95 % du temps à mon chapeau de maman parce que je peux cuisiner pour lui, je peux faire des trucs, on prend un café, on fait des trucs ensemble, j'ai mon rôle de maman. Quand il est à l'extérieur, je fais mon rôle de maman aussi, mais quand je lui parle, bien sûr, je ne suis pas toute la journée avec lui, je ne déjeune pas avec. Quand j'ai à lui parler, quand il est à l'extérieur, j'ai souvent, beaucoup plus souvent mon rôle d'agent parce que je lui parle de, bon, il y a ça à régler, une petite heure du jour, mais je commence toujours par comment ça va, bien sûr, tout ça. Et le rôle de maman, je vais le prendre, je me permets de le prendre encore souvent pour des fois comme la façon qu'il est habillé sur le terrain, un chandail que je trouvais qui fitait moins avec le short, ou des fois son attitude ou plutôt son énergie que je trouve que des fois, ah, t'avais une belle énergie, ah, ton énergie, je la trouvais moins chouette dans ce match-là. Donc ça, c'est mon rôle de maman que je me permets de lui dire des petits trucs comme ça.
Puis j'aime, tu m'as parlé, bon, dans mon intro, j'ai parlé beaucoup de parents ou de mamans ou de papas qu'on connaît, surtout comme des entraîneurs. Là, je t'amène parce que souvent, en tant que parent, on est porté des fois à prendre le rôle d'entraîneur, puis c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas?
Effectivement. Ça, je pense que les entraîneurs qui ont été dans la vie d'Alexis depuis qu'il est tout petit, je pense qu'ont toujours très apprécié que je me mêlais pas du tout de ce qui se passait entre les lignes du terrain, c'était leur boulot. Même encore à ce jour, je pense qu'Alexis fait à semblant, en tout cas, le sait. Je fais à semblant que je ne connais pas vraiment ça, puis mais il sait, ou ouais, je pense qu'il sait. T'sais, je connais super bien ça, j'ai regardé tous ses matchs, c'est bien sûr, je commence à connaître ça, mais je ne vais pas parler de tennistiquement des trucs, non, jamais, avec Alexis. Je pense que ça fait que c'est là la limite avec les coachs et avec Alexis qui sait que c'est comme ça, puis il respecte ça. Puis je pense que les entraîneurs ont apprécié au fil des années que je m'immisce pas dans cette sphère-là.
En fait, ce que tu m'exprimes, c'est que peu importe que tu sois, bon, quand tu es un parent, même quand tu connais ça, si tu n'es pas son entraîneur attitré, tu es mieux de laisser le rôle à l'entraîneur. Si tu es l'agent ou pas l'agent, ben des fois aussi, il y a des athlètes qui vont prendre un agent. Ben là, le parent doit garder son rôle. Il peut avoir des discussions, bien entendu, mais c'est important de respecter le rôle de chacun et de les laisser faire pour pouvoir avoir une bonne entente. C'est comme dans une équipe de hockey ou peu importe le sport. Lorsque c'est un sport d'équipe, on se doit de faire notre rôle. Ben c'est la même chose au tennis.
Oui, je pense que tu le soulèves bien. C'est que chacun a leur rôle. Chacun doit s'assurer de rester dans les limites de son rôle. Travail d'équipe, je pense que c'est là la clé. Si chacun respecte le rôle de chacun, puis essaie pas de trop aller dans la cour de l'autre, je pense que ça montre le respect à la base.
À travers les années, bon là, Alexis a 24 ans, il est sur le circuit, bon, on l'a vu bien performer à Granby, bon, représente le Canada à la Coupe Davis, champion l'année dernière, on va voir ce que ça va donner cette année. Toi, est-ce que tu as eu accès à des outils justement pour t'aider? Là, bon, Tennis Canada maintenant a vraiment là, des beaux outils pour nous aider, ou des aides-mémoires que j'aime dire des fois, parce qu'on sait ce qu'on doit comme parent, comment encourager, mais... Toi, t'avais-tu ça à l'époque? Mais ça fait pas si longtemps que ça, quand même.
Non, mais c'est pas si longtemps. Mais finalement, quand je regarde, j'ai jeté brièvement un œil tout à l'heure sur le site, justement, de Tennis Can. Puis, non, dans le temps qu'Alexis était dans le programme NTC, le Centre national de développement, il n'y avait pas de programme en tant que tel, comme il n'y avait pas d'aide-mémoire, ça c'est sûr. Je pense qu'on a eu peut-être une fois ou deux des conférences avec une psychologue invitée qui parlait un peu de... des règles, pas des règles, mais un peu comment garder notre rôle en tant que parent, d'être positif, des trucs comme ça, mais sans plus. Il y avait moins d'informations qui nous étaient. C'était plus comme Tennis Canada, laissez-nous faire notre boulot et garder votre rôle de parent et tout ça, mais il n'y avait pas vraiment autant. Là, je trouve ça vraiment bien. Non, je trouve ça vraiment, c'est super, super bien.
Puis revenons à ton rôle d'agente. Quels sont les avantages ou les enjeux d'avoir apporté les deux chapeaux?
Les avantages, c'est bien, moi, je pense, autant pour Alexis, mais en tout cas pour Alexis, je pense qu'il sait que je vais toujours essayer de le protéger, si on peut dire. Ouais. C'est un mot qui a l'air, c'est quand même la jungle là-dedans. Je vais toujours aller selon ses intérêts à lui. Pas avec les il n'y a pas de biais qui est vraiment possible parce que on est parents, ce qu'on veut, c'est le bien de nos enfants. Donc, ça ne fait pas exception. Ce que je veux, c'est son bien dans ça. Ce qui peut devenir un peu un enjeu, si on peut dire, un peu étant une femme, des fois, j'ai un côté qui est plus émotionnel. Donc, des fois, il y a des situations que je vis et qui ont rapport avec le rôle d'agent où est-ce que émotivement ça vient un peu plus me chercher parce que c'est mon fiston, puis je suis une maman lion un peu, ça, des fois. Fait que ça devient un enjeu, mais sinon, je vois plutôt des avantages. Bien sûr, il faut que la relation avec notre enfant soit saine et positive aussi.
Est-ce que quand tu arrives dans la conversation avec Alexis, c'est « bon, là, c'est maman qui te parle » ou « là, c'est ton agente qui te parle », est-ce que tu fais ça pour déterminer clairement où ça se fait naturellement?
Bien, il y a des fois, je le fais. Mais souvent, je le fais plus en blague, en riant. Mais oui, c'est vrai, non. C'est vrai, quand je le fais en le disant comme ça, c'est parce que je le dis en blague, parce que je pense qu'il est capable de voir quand je module d'un endroit à l'autre, parce que si les sphères que je me mêle là, sont tennis, ou quand je parle vraiment tennis, que ça, c'est rarement avec un chapeau de maman que je vais le faire.
Hey, Chantal, merci d'être venue nous parler un peu plus de ton rôle. C'est sûr qu'on va suivre la carrière d'Alexis attentivement. Et j'invite tous les gens que, même si votre enfant n'est pas dans le tennis, sur Tennis Canada, c'est vraiment bien fait, là, être parent d'un sportif en 10 phrases. Il y a les 13 étapes pour être un parent gagnant. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Des fois, c'est un petit aide-mémoire qui est intéressant à se rappeler pour bien faire les choses, peu importe l'âge de notre enfant.
Tout à fait, je suis d'accord. Merci Isabelle, c'est gentil.
Merci une fois de plus à Isabelle et à Chantal pour cette excellente entrevue. C'est ce qui conclut l'épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Nicolas Richard, comme c'est la tradition, je vais te demander de terminer brillamment cet épisode.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.